Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le procès d'un intellectuel italien attaqué en justice par Giorgia Meloni commence aujourd'hui. Il avait qualifié la chef du gouvernement de néo-nazi dans l'âme.
Dans le cadre des 80 ans de la libération, Emmanuel Macron se rend dans le Vercors pour un hommage inédit. Il est attendu dans un village, Vassieux en Vercors, entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale.
Nous ferons le point sur la situation au Moyen-Orient. Le président des États-Unis redoute un embrasement de la région, tandis qu'Israël semble préparer sa riposte à l'attaque iranienne.
Encore un débat en l'absence de Jordan Bardella. À moins de 2 mois des élections européennes, les principales têtes de liste vont à Angers pour parler du pacte vert. Stéphane Robert y reviendra dans son billet politique à 8h15.
Pour avoir qualifié Giorgia Meloni de néo-nazi dans l'âme il y a 2 ans, un chercheur italien, Luciano Canfora, est poursuivi par la présidente du Conseil et le procès commence aujourd'hui à Bari. C'est un cas d'école observé aussi côté français. Un historien peut-il être condamné pour diffamation même lorsque c'est son savoir qu'il mobilise? Et le terme néo-nazi, par exemple, est-il systématiquement une insulte selon celui qui l'emploie, Chloé Le Prince?
Si c'est un grand spécialiste de l'histoire de la démocratie en Europe, notamment néo-nazi, ça peut être du savoir, une catégorie historique, une analyse étayée par des années de généalogie. C'est en tout cas ce que plaide Luciano Canfora. En philologue, il dresse de longue date un parallèle entre le berceau idéologique d'où vient Meloni. Canfora avance que c'est sur le terreau des années 43-44, quand l'Italie était un vassal d'Hitler, qu'une partie de la classe politique italienne a fait ses armes, notamment du côté du mouvement social italien créé après-guerre par Giorgio Almirante. C'est ce legs que Canfora, comme d'autres, attribue à Meloni. C'est pour ça que dans la presse française, son parti est souvent qualifié de post-fasciste, y compris par l'agence France Presse. C'est comme si, en France, un gouvernement refusait de revendiquer l'héritage de la résistance, résumait un collectif d'intellectuels français dans un texte de soutien à, je cite, « l'un des plus grands intellectuels italiens » paru dans Libération à quelques jours du procès qui s'ouvre aujourd'hui. Sans pour autant tout partager avec l'historien communiste de 81 ans, ses chercheurs, Georges Didier Huberman, Paulin Ismar, Pierre Vesperini, François Hartog, Patrick Veil et bien d'autres défendent surtout le droit de Canfora à le dire.
Le droit de nommer, de catégoriser pour les chercheurs sous pression judiciaire malgré leur liberté d'expression, c'est au cœur de ce qu'on appelle en France les procédures Bayon, Chloé.
C'est le même mot que pour les procès des ONG ou des lanceurs d'alerte. On en parlait beaucoup dans les universités françaises dans les années 2010, notamment parce qu'à l'époque, les chercheurs comparaissaient souvent seuls devant les tribunaux, alors que lorsqu'un journaliste est poursuivi pour diffamation, par exemple, il a souvent avec lui l'avocat de son média. En droit, un chercheur, un enseignant chercheur, a pourtant plus de marge de manœuvre que d'autres fonctionnaires. Surtout, il bénéficie en théorie de la protection fonctionnelle de son employeur. Ça existe depuis 40 ans, mais c'était longtemps très méconnu. Le premier rapport au ministre de la Recherche sur les procédures Bayon, c'était 2017. C'est la même année qu'une circulaire ministérielle recommandait qu'on accorde la protection fonctionnelle. On a longtemps manqué de chiffres. Depuis 2022, le ministère publie systématiquement une enquête annuelle. Dans à peu près 2 cas sur 3, la protection fonctionnelle est accordée. Ça peut concerner aussi bien des menaces ou des violences que des affaires de diffamation.
Chloé, Le Prince. De cette période de l'histoire, il est question aujourd'hui dans la Drôme. 10 jours après le plateau des Glières et la maison d'Izieux, Emmanuel Macron poursuit ses commémorations des 80 ans de la Libération. Le président est attendu à Vassieux en Vercors cet après-midi pour saluer la mémoire des combattants du Maquis, formés dès 1942 et contre lesquels les Allemands lanceront l'assaut en juillet 44. C'est la première fois qu'un président rend hommage à ce Maquis du Vercors, Rosalie Lafarge.
Le général de Gaulle y a bien fait une halte en 1963. Nicolas Sarkozy s'est rendu à la chapelle en Vercors en 2009. Mais le petit village de Vassieux en Vercors, entièrement détruit pendant la guerre, tient enfin sa cérémonie présidentielle. 80 ans après ce que fut cette épopée, Emmanuel Macron a considéré, explique l'Élysée, qu'il était temps d'honorer cette mémoire de la manière la plus solennelle possible. 2 raisons principales sont mises en avant, la forte demande locale et le côté assez exemplaire de l'histoire de ces 4000 maquisards français, sénégalais ou polonais. Notamment parce que ce maquis, en 1944, s'autoproclame République libre du Vercors. Façon, selon un conseiller du président, de réaffirmer la permanence de la République, alors mise à l'écart par le régime de Vichy. Quand la milice française décide, le 16 avril 1944, de lancer la première attaque, ce sont donc des Français qui cherchent à détruire cette République libre du Vercors. Et c'est bien pour souligner cela que l'Élysée a choisi d'organiser cette cérémonie aujourd'hui. D'habitude, à Vassieux en Vercors, on salue la mémoire du maquis le 21 21 juillet, jour de l'assaut final des Allemands. Même le maire du village s'est dit un peu surpris du choix du 16 avril. Mais cela s'inscrit dans la continuité de ce qu'Emmanuel Macron a commencé il y a 10 jours sur le plateau des Glières. Et même si ses conseillers se défendent de tout lien avec le scrutin européen, force est de constater qu'à 2 mois du vote, avec un RN toujours plus haut dans les sondages, le chef de l'État va donc de nouveau insister aujourd'hui sur cette France qui ne s'aime pas, cette France divisée, ce qu'il a lui-même appelé notre tragédie française.
Emmanuel Macron aussi mobilisé sur les Jeux Olympiques. Il a tenté de rassurer hier sur la tenue de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet sur la Seine, mais affirme qu'il y a des plans B et C en cas de menace terroriste. Il manque encore 20 000 agents de sécurité privée pour les JO. Alors le gouvernement va autoriser les fonctionnaires à occuper certains de ces emplois. C'est ce qu'indique un projet de décret révélé hier par les médias spécialisés, Acteurs Publics et AEF Info. Pas sûr que ce soit très efficace, Thomas Pinaroli.
Pour justifier ce projet de décret, le gouvernement met en avant, en effet, les difficultés de recrutement des entreprises de sécurité privées. Les fonctionnaires volontaires pourront donc cumuler leur emploi dans le public avec une activité d'agent de sécurité. Mais tout cela est très encadré. C'est valable uniquement pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, du 15 juillet au 15 septembre. L'employeur devra donner son autorisation pour que le cumul, je cite, « ne porte pas atteinte au fonctionnement du service public ». Traduction, selon les syndicats, ce ne sera possible que pendant les périodes de congés. Et puis le cumul est réservé aux fonctionnaires déjà titulaires d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, des profils qu'on trouve surtout dans la police nationale et municipale, police dont il n'est pas question de dégarnir les rangs cet été. Autant de conditions qui réduisent considérablement le nombre de fonctionnaires éligibles. Les syndicats estiment qu'ils sont quelques milliers tout au plus, et parmi eux, tous ne seront pas volontaires.
Et le projet de décret sera formellement présenté aux syndicats dans une semaine. En attendant, la flamme olympique sera allumée aujourd'hui en Grèce sur le site antique d'Olympie. Et l'ancienne nageuse Laure Manaudou sera la première relayeuse française. Nous en reparlerons dans le 8.45 sur France Culture. Un an après le début de l'opération Wambushu, une nouvelle a commencé ce matin à Mayotte, selon nos confrères de France Info. Elle va durer jusqu'à la fin du mois de juin. L'objectif affiché par l'exécutif reste le même, lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre. Le gouvernement veut montrer qu'il ne lâche pas les Mahorais au moment où les violences reprennent avec des barrages et des voitures incendiées dans plusieurs villes. 8h07, suite du journal. Joe Biden veut éviter un embrasement au Moyen-Orient 6 mois après le début de la guerre à Gaza et 2 jours après l'attaque iranienne contre Israël. Il l'a redit hier en recevant le premier ministre irakien à la Maison-Blanche. Déclaration après l'attaque de l'Iran, donc, au cours de laquelle l'armée américaine est intervenue pour intercepter des drones et des missiles. La France y a participé aussi. Le président des États-Unis a redit son soutien à l'allié israélien, mais veut aussi éviter une escalade dans la région. Écoutez.
Comme vous le savez, l'Iran a lancé une attaque aérienne sans précédent contre Israël et nous avons déployé un effort militaire sans précédent pour défendre Israël. Avec nos partenaires, nous avons mis en échec cette attaque. Les États-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël. Nous sommes engagés en faveur d'un cessez-le-feu qui ramènera les otages à la maison et empêchera le conflit de s'étendre plus qu'il ne l'est déjà.
Joe Biden. Alors Israël semble décider à riposter, mais quand et comment, on ne le sait pas encore. L'heure est aux préparatifs. À Jérusalem, les précisions de Thibault Lefebvre.
Le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi promet des représailles. Quelques heures avant, le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdollahian avait assuré que la réplique de Téhéran pourrait être immédiate et plus forte. Voilà pour les mots. Dans les faits, les Israéliens cherchent encore le bon dosage. D'un côté, il ne faut pas laisser l'attaque historique de ce week-end sans réponse. Et de l'autre, ne pas se mettre à dos l'allié américain qui exhorte l'État hébreu à ne pas se précipiter pour éviter un embrasement régional. Selon la chaîne 12, l'armée de l'air israélienne est sur le qui-vive et plusieurs options sont sur la table. L'envoi de missiles sur le territoire iranien, une cyberattaque ou une frappe sur une des forces mandataires de Téhéran comme le Hezbollah au Liban. Et puis, autre front, mais toujours la même volonté de passer à l'offensive, Gaza et la préparation de la bataille de Rafah au sud de l'enclave. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant travaillait hier soir sur les plans d'évacuation de la zone.
Dans un contexte géopolitique tendu, commencent aujourd'hui à Washington les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international publiera ensuite son rapport sur les prévisions de croissance pour l'économie mondiale, autour de 3% si on en croit les autres pronostics. Après le Covid-19, la guerre en Ukraine et l'inflation, l'économie mondiale est à nouveau solide, avec cependant de très fortes divergences d'une zone à une autre, Marie Viennot.
Il y a un an, ces réunions économiques avaient démarré alors que le secteur financier américain venait de connaître 3 faillites bancaires inquiétantes. L'année d'avant, c'était la guerre en Ukraine. Celle d'avant, les confinements répétés du Covid. Et 2020, le choc inédit du Covid lui-même. 2024 s'annonce plus calme, mais ces divers événements ont accentué des divergences, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Outre-Atlantique, la croissance est quasiment le double de ce qu'elle est en Europe, car plus exposée à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, l'Europe est à la peine. Plusieurs pays européens ont frôlé la récession l'an passé et pour 2024, rares sont les pays de la zone euro à prévoir un taux de croissance supérieur à 1%. Avec 4,7% prévu pour la Chine et 6,5% pour l'Inde, ces deux pays continuent de tirer vers le haut l'économie mondiale, mais moins qu'avant, selon l'OFCE qui prévoit aussi un ralentissement de la croissance en Amérique latine. Résiliente, l'économie mondiale pâtit encore des effets du Covid, estime en effet le FMI. La pandémie a coûté 3 300 milliards de dollars, la plupart financés par de la dette, une dette de plus en plus chère à financer. En moyenne, les gouvernements y consacrent 5% de leurs revenus dans les économies avancées, 14% dans les pays pauvres. Alors comment alléger le fardeau de la dette pour ces pays-là? La question sera encore au menu de ces discussions de printemps.
Marie Viennot, la Moldavie lance une grande campagne de recensement. Rendez-vous qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Le pays souffre de la pire crise démographique en Europe. Sa population a diminué de 30% depuis son indépendance de l'Union soviétique en 91. Le gouvernement veut donc agir alors que les négociations d'adhésion à l'Union européenne ont commencé il y a quelques mois. Les précisions de Maria Gert Niculescu.
80 questions pour comprendre qui peuple la Moldavie et quelles y sont les conditions de vie. Pour recenser la population, 4000 personnes sont mobilisées. Natalia Patrașanu, responsable du recensement dans le village de Meleni.
Le recensement est d'une grande importance. Nous avons besoin de savoir exactement quelles localités, quelles régions du pays ont besoin de nouveaux hôpitaux, écoles, maternelles.
À Meleni, à peine 6000 habitants, dont la plupart ont des proches à l'étranger. Victor Sava, habitant du village.
Mon fils est à Londres, ma fille à Paris. Il n'y a plus que moi ici à la maison. Là-bas, on peut gagner 2000 ou 1800 euros, alors qu'ici, c'est plutôt 3, 4 ou 500 euros.
La Moldavie compterait aujourd'hui 2,6 millions d'habitants, soit une baisse de 30% depuis 1991. Valentina Gravilitsa, directrice du bureau des statistiques dans la ville d'Aneninoï.
Les jeunes veulent des meilleures études. Ils partent pour étudier, puis ils se marient à l'étranger, ils font des enfants, et d'autres partent pour trouver du travail.
Selon elle, les résultats du recensement pourraient permettre aux autorités de mieux développer le pays et ainsi convaincre certains Moldaves de revenir chez eux.
Presque 2 ans après l'attaque qui a failli lui coûter la vie, Salman Rushdie raconte son agression dans un livre, Le Couteau, publié aujourd'hui aux États-Unis, jeudi en France. L'auteur des versets sataniques qui vit sous la menace d'une fatwa depuis 89 avait été poignardé lors d'une conférence aux États-Unis. Salman Rushdie qui a raconté cette agression quand il était à Francfort cet automne pour la Foire internationale du livre. Sébastien Baer y était.
C'est le livre qu'il n'aurait jamais voulu écrire, le récit de ses 27 interminables secondes et de ses 12 coups de couteau reçus au visage, au cou, à la poitrine et à la main. À la foire du livre de Francfort, le romancier de 76 ans avait comparé son roman à un exutoire.
Ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il était impossible d'écrire autre chose. Cela m'aurait semblé absurde tant que je n'aurais pas évacué ce sujet. Je suis heureux d'être encore là pour le raconter, mais il s'en est fallu de peu.
Élie Portée à l'hôpital, Salman Rushdie a été opéré pendant 8 heures avant de passer 6 semaines en convalescence. Le romancier conserve de lourdes séquelles et a notamment perdu la vue de l'œil droit. Sur la chaîne américaine CBS, il est revenu sur son attaque et a lu un extrait de son roman.
Dans le coin de mon œil droit, la dernière chose que mon œil droit verrait jamais, j'ai vu l'homme en noir courir vers moi. Vêtements noirs, masque noir. J'avoue que j'avais parfois imaginé mon assassin se lever dans un forum public ou autre et venir me chercher de cette manière.
Jamais tout au long des 272 pages de son roman, Salman Rushdie ne cite le nom de son agresseur. Il se refuse également à l'évoquer en interview.
Lui et moi avons eu 27 secondes ensemble. C'est tout. Je n'ai pas besoin de lui donner plus de mon temps.
Salman Rushdie a bien l'intention de continuer à participer à des événements publics. Je ne veux pas d'une vie confinée, affirme-t-il. Je veux vivre ma vie.
Et pour se plonger dans la vie de Salman Rushdie, écoutez À Voix Nue sur France Culture, une série d'entretiens, deuxième épisode ce soir à 20h, à retrouver aussi en podcast sur l'application Radio France et le site internet de France Culture. Météo France prévoit une journée encore perturbée, de la pluie, du vent, surtout dans un bon quart nord-ouest du pays, ainsi que dans le sud-ouest. 10 degrés attendus cet après-midi à Metz, jusqu'à 11 à Brest, 13 à Paris, 15 à Biarritz, 19 à Nice et Ajaccio.